te voir. Oh, je désire te voir.
Vous écoutez KTO Radio, il est 19h.
Jesus Christus.
Les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église, mais sont nos frères et sœurs les plus aimés. Les mots du pape dans son message publié aujourd'hui pour la prochaine journée mondiale qui leur est consacrée. Léon XIV explique combien les pauvres sont les protagonistes de l'espérance. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Dans l'actualité internationale, l'escalade au Moyen-Orient. Depuis la nuit dernière, Israël a mené des frappes intensives en Iran, tuant des hauts responsables du régime et visant des armes nucléaires. De nombreuses chancelleries appellent au calme. Israël s'attend à un regain du conflit. Nous ferons le point. Et puis dans ce journal également, les dépenses des 9 puissances nucléaires de la planète qui ont franchi pour la première fois en 2024 la barre des 100 milliards de dollars. La course aux armements, un sujet de préoccupation pour l'Église. Nous entendrons l'évêque aux armées en France, Monseigneur Antoine de Romanet.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonsoir, tu es mon espérance, tel est le thème du message pour la 9e journée mondiale des pauvres. Elle sera célébrée le 16 novembre prochain, mais le message a été rendu public ce vendredi 13 juin, jour de la fête de Saint-Antoine de Padoue, patron des pauvres. Dans ce message, Léon XIV appelle les fidèles à redécouvrir l'espérance chrétienne comme réponse à l'instabilité qui imprègne le monde. S'inspirant des psaumes et de l'expérience vécue par ceux qui souffrent de la pauvreté, le pape exhorte les chrétiens à reconnaître ces pauvres, non pas comme des objets de charité, mais comme des protagonistes de l'espérance. Le compte-rendu d'Alexandre Assiagan.
Les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église, écrit Léon XIV. Ils sont nos frères et sœurs les plus aimés, car chacun d'eux, par son existence et aussi par les paroles et la sagesse dont il est porteur, nous invite à toucher du doigt la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi ce message veut rappeler aux communautés chrétiennes que les pauvres sont au centre de toute l'œuvre pastorale. Toutes les sont un appel à vivre concrètement l'Évangile et à offrir des signes efficaces d'espérance. Et ces formes de pauvreté sont nombreuses aujourd'hui. L'accès à un logement, à une alimentation suffisante, aux soins, à un bon niveau d'éducation et d'information, ou encore à la liberté religieuse et d'expression. La plus grande pauvreté étant de ne pas connaître Dieu, avertit le souverain pontife. Face à la succession de nouvelles vagues d'appauvrissement, le pape met en garde contre l'habitude et la résignation. C'est pourquoi, en cette année sainte, Léon XIV appelle à ce que le jubilé puisse encourager le développement de politiques de lutte contre les formes anciennes et nouvelles de pauvreté, ainsi que de nouvelles initiatives de soutien et d'aide aux plus pauvres parmi les pauvres.
Alexandre Assiagan, et un message à retrouver bien sûr en détail sur notre site vaticannews.va. C'est une nouvelle escalade dont le Moyen-Orient est coutumier, mais les inquiétudes sont grandes depuis ce matin. Israël a en effet lancé des raids ciblés sur l'Iran, tuant des hauts responsables des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime. Des frappes qui ont également visé des infrastructures du programme nucléaire iranien. Téhéran a dénoncé une déclaration de guerre, une escalade, Jean-Benoît Harel, qui inquiète les chancelleries dans le monde entier, alors qu'Israël ne prévoit pas d'en rester là.
Oui, Olivier, l'inquiétude est vive. Le Premier ministre israélien s'est entretenu cet après-midi avec plusieurs dirigeants, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron. Benjamin Netanyahou a également prévu de discuter ce soir avec les présidents russes et américains. De nombreuses chancelleries appellent à la désescalade, à l'instar d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui exhorte les deux parties à la, je cite, « retenue maximale ». L'Iran, pour sa part, demande à la communauté internationale de condamner cette attaque que le ministre des Affaires étrangères du pays juge criminelle. Les principaux aux États de la région ont déjà condamné cette attaque. L'Arabie Saoudite a dénoncé des violations flagrantes du droit international et la Turquie, elle, a qualifié les attaques d'agression barbare.
Israël, Jean-Benoît, qui, dans ses cibles, a éliminé des figures importantes en Iran.
Oui, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé les 3 plus hauts commandants militaires du régime iranien, dont le chef des gardiens de la Révolution, ainsi que le commandant de la force aérospatiale. De plus, 6 experts scientifiques nucléaires sont morts. Ils travaillaient sur le programme nucléaire, sujet au cœur de cette attaque. Les avions de Tsahal Israël ont en outre ciblé une centaine de sites, dont celui d'enrichissement nucléaire de Natanz et le réacteur à eau lourde d'Arak. Ce soir, les Israéliens se préparent d'ores et déjà à des représailles de la part du régime iranien, qui a promis les portes de l'enfer, je cite, à Israël. L'État hébreu a déployé des réservistes dans tout le pays et assure, par la voix de son premier ministre, que l'opération durera de nombreux jours.
Jean-Benoît Rey, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies aura lieu ce soir à 21h heure de Rome, réunion demandée par l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique prévoit quant à elle une réunion extraordinaire pour lundi prochain. Ce matin au Vatican, le pape recevait le président libanais Joseph Aoun. Le besoin nécessaire et inévitable de favoriser la pacification de l'ensemble de la région du Moyen-Orient a été précisé un communiqué du Saint-Siège. Des mots qui prennent toute leur importance en ce moment. Le pape a formulé aussi l'espoir d'un processus de stabilisation et de réforme pour le pays du Cèdre. Ces offensives majeures israéliennes ont-elles pour objectif de des républiques islamiques iraniennes, il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais frapper l'Iran est une vieille idée de Benjamin Netanyahu. La décision des offensives se vend alors que les négociations directes entre Washington sur le dossier du nucléaire piétinait n'étant au hasard, c'est ce que nous explique Blanche, spécialiste du Moyen-Orient à l'université de Lyon 2.
En principe, ce banc aurait dû se produire il y a plus après l'offensive israélienne sur le Liban, où on avait le Hezbollah qui était à plat, et le régime d'Assad qui s'était écroulé en Syrie. Et puis Donald Trump est arrivé au pouvoir et il a demandé aux Israéliens un sursis pour laisser sa chance aux négociations. Donc les négociations ont commencé au mois d'avril, elles devaient durer 60 jours. Et Trump a jugé à la fin que ces négociations ne pouvaient pas aboutir puisque les Iraniens refusaient d'abandonner leur processus d'enrichissement de l'uranium. Aujourd'hui, c'est le 61e jour, donc ça devait être, à mon avis, le deal tacite qu'il y avait entre Netanyahou et Trump si, au bout de 60 jours, eh bien, les Iraniens continuent à louvoyer, à faire des promesses, à ne pas les tenir et à refuser, eh bien, on passe à l'offensive.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. À la une de l'actualité également, l'Ukraine qui annonce avoir récupéré les dépouilles de 1200 de ses ressortissants, la plupart tués sur le front, le fruit d'un accord avec la Russie à Istanbul au début du mois de juin. L'Ukraine où l'engagement du Saint-Siège se poursuit sur un plan humanitaire. Un camion d'aide rempli de vivres, affrété par l'aumônerie apostolique, est arrivé dans la ville de Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne, récemment touchée par des missiles russes. La charité ne s'arrête jamais, souligne le cardinal Konrad Krajewski, l'aumônier du pape. C'est un sujet d'attention majeure pour le Saint-Siège, attentif au développement plutôt qu'au réarmement. Les dépenses des 9 puissances nucléaires de la planète ont franchi pour la première fois l'an passé la barre des 100 milliards de dollars, c'est 9 milliards de plus sur un an, et la moitié concerne les États-Unis. Le constat émane du rapport émis ce vendredi par la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, l'ICAN. Cette coalition d'ONG qui siège à Genève a reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Dans un monde toujours marqué par la course aux armements et où semble prévaloir la voix du plus fort, l'Église a sa voix à faire entendre, c'est ce que nous explique Mgr Antoine de Romanet, l'évêque aux armées en France.
C'est le drame du péché des origines et c'est le drame de la réalité que nous vivons depuis quelques années, où nous constatons une sorte d'usage désinhibé de la puissance et du rapport de force, un mépris des relations internationales, un mépris des traités internationaux et une volonté de s'imposer dans un rapport de force qui est tout à fait redoutable et très extraordinairement inquiétant. On est passé d'une logique paix, guerre, paix, où on déclarait la guerre en gants blancs, en envoyant son ambassadeur et on signait la paix à Versailles ou à Trianon, 1914-1919, 1945, il y avait un début, il y avait une fin, c'était clair, c'était net. Aujourd'hui, on est passé à une logique compétition, confrontation, affrontement, un curseur qui ne cesse d'évoluer sur tous les registres. Nous sommes donc sur des sujets extrêmement redoutables, sur lesquels la parole de l'Église est plus que jamais nécessaire. Il nous faut absolument être des artisans de paix. Il nous faut, là où nous sommes, tels que nous sommes, déployer des relations de fraternité, de respect, de coopération, de justice, pour que ce ne soit jamais les armes qui puissent parler, mais que ce soit les cœurs, et que ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, construire un monde de justice et de paix, se fasse très concrètement, là où nous sommes, entre les États, entre les nations, et à l'échelle de la planète.
Des propos recueillis par Augustine Asta. Et puis, avant de refermer ce journal, sachez que la canonisation de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati aura lieu le 7 septembre. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'un consistoire ordinaire public présidé par le pape. Sept autres bienheureux, dont Peter Thorot, le premier de Papouasie-Nouvelle-Guinée, seront eux proclamés saints au cours d'une messe. Ce sera le 19 octobre prochain. Des informations à retrouver en détail, bien sûr, sur notre site vaticannews.va. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés toute cette semaine sur nos ondes. Demain, à 18h de Rome, vous retrouverez notre émission hebdomadaire Vox Mundi. Je vous souhaite une belle soirée, un excellent week-end.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 20e. Contre un plus fort vouloir, mal combat un autre vouloir. Ainsi, contre ce qui me plaisait pour lui plaire, je retirais de l'eau l'éponge non rassasiée. Je m'avançais, et mon guide s'avança par l'espace libre le long de la rampe, comme on va par un étroit mur crénelé, car la jante qui, par les yeux, goutte à goutte, verse le mal dont tout le monde est plein, s'approchait trop en dehors. Maudite sois-tu, antique louve, qui, plus que toutes les autres bêtes, abonde de proie pour ta faim sans fond. Ô ciel, dont on paraît croire que les mouvements changent la condition des choses d'ici-bas, quand viendra celui par lequel s'en ira celle-ci? Nous allions à pas lents et rares, et j'étais attentif aux ombres que j'entendais pitoyablement pleurer et se plaindre, lorsque, de fortune, jouit douce Marie devant nous appelée au milieu de ses pleurs, comme la femme en travail d'enfant, et ajoutait « Aussi pauvre tu fus, qu'on le peut voir par le réduit où tu déposas ton fruit saint. » J'entendis ensuite « Ô bon Fabricius !» Tu aimas mieux la pauvreté avec la vertu que de grandes richesses avec le vice. Ces paroles tant me plurent que je m'avançais pour connaître l'esprit de qui elles paraissaient venir. Il parlait aussi de la largesse que fit Nicolas aux jeunes vierges pour conserver pur leur honneur. Ô âme qui si bien discours, dis-moi qui tu fus, dis-je, et pourquoi seul tu renouvelles ces dignes louanges. Tes paroles ne seront point sans récompense si je reviens accomplir le court chemin de cette vie qui vole vers son terme. Et lui, je te parlerai non pour confort que j'attende de là, mais à cause de la grâce singulière qui reluit en moi avant que tu sois mort. Je fus la racine de la mauvaise plante qui, tellement de son ombre, couvre la terre chrétienne que rarement s'y cueille un bon fruit. Si Douai, Gand, Lille et Bruges pouvaient, prompte en serait la vengeance, et je la demande à celui qui juge tout. Je fus appelé là Hugues Capet. De moi sont nés les Philippe et les Louis, par qui nouvellement est régie la France. Je fus fils d'un boucher de Paris. Lorsque les anciens rois vinrent à manquer tous, hors un qui avait endossé la robe grise, je me trouvais ayant en main le frein du gouvernement du royaume et si puissant par de nouveaux acquêts et entouré de tant d'amis qu'à la couronne, veuve fut promue la tête de mon fils, par qui de cela commença la race exécrable. Jusqu'à ce que la grande dot de Provence eût à mon sang ôté toute pudeur, peu il valait, mais du moins il ne faisait pas de mal. Alors, par la force et le mensonge, commencèrent leurs rapines. Ensuite, pour amende, ils prirent le Pontois, la Normandie et la Gascogne. Charles vint en Italie et pour amende fit de Coradin une victime. Et au ciel renvoya Thomas pour amende.
Peu après, je vois un temps où de France est attiré un nouveau Charles, pour que mieux soit connu et lui et les siens. Il en sort sans armée, seul avec la lance, avec laquelle jouta Judas, et si bien que de Florence elle ouvre le flanc. Par là, point de terre, il ne gagnera, mais péché et honte, pour lui d'autant plus pesant que plus léger lui semblera un pareil dommage. L'autre qui sortit ensuite, je le vois pris sur un navire vendre sa fille et en trafiquer comme les corsaires des autres esclaves. Ô avarice, quoi de plus peux-tu faire des miens, après qu'à toi tellement tu les as attirés que point ils n'ont souci de leur propre chair ? Pour que moindre paraisse le mal futur et le mal fait, je vois dans Alania entrer le Lys et dans son vicaire le Christ captif. Je le vois moquer une autre fois, je le vois de rechef abreuvé de vinaigre et de fiel et mis à mort entre deux voleurs vivants. Je vois le nouveau Pilate si cruel que, non assouvi encore, il porte sans rescrit ses voiles avides dans le temple. Ô mon Seigneur, quand joyeux verrai-je la vengeance cachée dont jouit en secret ta colère ? Ce que je disais de cette unique épouse de l'Esprit-Saint, sur quoi pour t'enquérir tu t'es tourné vers moi, nous le redisons dans nos prières pendant que le jour dure. Mais quand vient la nuit, nos voix prennent un ton contraire. Alors nous parlons de Pygmalion, que traître et voleur et parricide fit l'insatiable désir de l'or, et de la misère de l'avare Midas, suite de l'avide demande qui doit le rendre à jamais un objet de risée. Puis chacun se rappelle l'insensé Achan, comment il déroba le butin, et il semble qu'ici encore le châtie la colère de Josué. Ensuite, nous accusons Saphira avec son mari, aux ruades que reçut Héliodore, nous applaudissons, et tout le mont roule dans l'infamie Polymnestor qui tua Polydore. Enfin, ici l'on crie, ô Crassus, dis-nous, puisque tu le sais, quel goût a l'or ? L'un parle haut et l'autre bas, selon le sentiment qui nous excite à parler avec plus ou moins de véhémence. Cependant, à écouter le bien que le jour on rappelle, je n'étais pas seul. Mais là, au prêtre était une personne qui n'élevait pas la voix. Nous avions quitté cet esprit et nous tâchions de gagner du chemin autant que nos forces nous le permettaient lorsque je sentis trembler le mont comme une chose qui tombe, d'où je fus pris d'un frisson semblable à celui que saisit l'homme qu'on mène à la mort. Si fortement ne trembla pas Délos, avant que Latone y eût fait le nid où elle enfanta les deux yeux du ciel. Puis retentit de toutes parts un cri tel que le maître se tourna vers moi disant « Ne crains rien, pendant que je te guide. » « Gloria in excelsis Deo », tous disaient, selon que je le compris, lorsque de plus près je pus entendre les cris. Nous demeurâmes immobiles et en suspens, comme les pasteurs qui les premiers ouïrent ce chant, jusqu'à ce que le tremblement ayant cessé, le chant aussi cessa. Puis nous reprîmes notre route sainte, regardant les ombres qui gisaient à terre et qui déjà étaient retournées aux pleurs accoutumées. Contre aucune ignorance qui me rendit désireux de savoir, je n'eus jamais si grand combat, si ma mémoire en cela n'erre pas, que n'était celui qu'en ma pensée il me semblait alors avoir, et à cause de la hâte, je n'osais demander, et là par moi-même je ne pouvais rien voir. Ainsi je m'en allais timide et pensif. Chant 21e. La soif naturelle qu'apaise seule l'eau qu'en grâce demanda la pauvre femme samaritaine me tourmentait. Et par la route, embarrassé, me hâtant à la suite de mon guide, j'étais ému de la juste vengeance quand voilà que, comme en Luc il est écrit que le Christ sortit du sépulcre, apparut à deux de ses disciples en voyage, nous apparut une ombre. Derrière nous, elle venait, regardant la troupe gisante à ses pieds. Nous ne l'avions point aperçue, de sorte que la première, elle parla, disant « Mes frères, que Dieu vous donne la paix. » Soudain, nous nous retournâmes, et Virgile lui rendit le salut qui convenait au sien. Puis il commença « Que dans l'assemblée bienheureuse t'introduise en paix le juste juge qui me relègue dans un éternel exil. » Si vous êtes, dit-elle, en continuant d'aller des ombres que Dieu ne daigne pas admettre là-haut, qui vous a ainsi conduit par cet escalier ? Et mon maître, si tu regardes les signes que porte celui-ci et que l'ange a tracés, bien verras-tu qu'avec les bons il doit régner. Mais parce que celle qui jour et nuit file n'avait pas encore épuisé la quenouille que Clotho dispose et mesure pour chacun, son âme, sœur de la tienne et de la mienne, venant là-haut, n'y pouvait venir seule, ne voyant pas comme nous voyons. C'est pourquoi je fus tiré de la large gueule de l'enfer pour le guider, et je le guiderai aussi loin que le pourra mon savoir. Mais dis-nous, si tu le sais, pourquoi de telles secousses ont ébranlé le mont, et pourquoi tous ensemble ont paru jeter le même cri jusqu'à son humide pied. Ainsi demandant, il toucha tellement le but de mon désir que par l'espérance, un peu apaisée, fut ma soif. Celui-là commença. Point n'est-ce une chose qui trouble l'ordre de la pieuse montagne ou qui soit inaccoutumée. Elle est exempte de toute altération, de ce qu'en soi le ciel reçoit d'elle, cela peut venir, et non d'autre chose. Car ni pluie, ni grêle, ni neige, ni rosée, ni bruine ne tombe au-dessus du court escalier des 3 degrés. Ne s'y voit aucun nuage épais ou léger, ni éclair, ni la fille de Thomas qui, là, souvent change de contrée. Nulle sèche vapeur ne monte plus haut que le sommet des 3 degrés dont je parlais ou le vicaire de Pierre à ses pieds. Peut-être plus bas tremble-t-elle un peu ou beaucoup, mais par un vent qui dans la terre se cache, je ne sais comme, ici haut, le mont ne tremble jamais. Il tremble lorsqu'une âme se sent pure, de sorte qu'elle monte, ou se meuve pour monter, et se crie la seconde. De la pureté, le seul vouloir fait preuve, l'âme tout à coup se sentant libre de changer de demeure, et de le vouloir, elle se réjouit. Auparavant, bien le voudrait, mais ne le permet pas le désir par lequel veut la divine justice qu'elle se porte vers le châtiment comme au péché elle se porta. Et moi qui, 500 ans et plus, étais gisant sous cette peine, tout à l'heure seulement j'ai senti le désir d'un séjour meilleur. Pour cela, tu as senti le tremblement et entendu les pieux esprits par tout le mont rendre gloire à ce Seigneur afin qu'il hâte leur passage là-haut. Ainsi il dit, et comme on se réjouit d'autant plus de boire que plus grande est la soif, je ne saurais dire combien il satisfit la mienne. Et le sage guide, maintenant je vois le filet où ici vous êtes pris, et comme on s'en dégage, pourquoi le tremblement et de quoi vous vous conjouissez? Qu'il te plaise maintenant que je sache qui tu fus. Pourquoi tant de siècles tu as été gisant, je l'ai compris par tes paroles. Au temps où le bon Titus, avec l'aide du souverain roi, vengea les blessures d'où sortit le sang vendu par Judas, revêtu du nom le plus durable et le plus honoré, j'étais là, célèbre, mais n'ayant pas encore la foi. Tant fut doux le souffle de ma voix que de Toulouse à Soie m'attira Rome, où je méritais que de Myrte mes tempes fussent ornées. Là encore, on me nomme Stas. Je chantais de Thèbes puis du grand Achille, mais sous la seconde charge en chemin je tombais. De mon ardeur furent la semence les étincelles de la divine flamme qui m'embrasa et à laquelle se sont allumées plus de 1000. Je parle de l'Énéide qui me fut une mamelle et une nourrice de poésie. Sans elle je n'eusse pesé une drachme. Et pour avoir vécu là quand vivait Virgile, je consentirais que d'un soleil plus que je ne dois, fut retardée la fin de mon bannissement. Virgile, à ces paroles, vers moi se tourna, d'un visage qui, en se taisant, me disait « Tais-toi, mais ne peut la vertu tout ce qu'elle veut. » Le rire et les pleurs suivent tellement la passion qui les excite qu'ils n'obéissent point au vouloir et moins encore chez les plus vrais. Je souris donc, comme celui qui fait signe, sur quoi l'ombre se tut et me regarda aux yeux où plus se retrace l'image véritable. Que d'un si grand travail tu recueilles le fruit, dit-il. Pourquoi ton visage m'a-t-il tout à l'heure montré un éclair de rire ? Je me trouve ainsi pris d'une et d'autre part. De l'une, on me commande de me taire, de l'autre, on me conjure de parler, d'où un soupir qui me fait comprendre. Parle, dit mon maître, et ne crains pas de parler, mais parle et dis-lui ce qu'il demande avec tant de soucis. Moi, donc, peut-être, antique esprit, t'étonnes-tu du sourire qui m'est échappé, mais je veux que tu t'étonnes plus encore. Celui-ci, qui en haut guide mes yeux, est ce Virgile, à qui tu dois d'avoir chanté avec éclat les hommes et les dieux. Si tu as cru que mon sourire eût une autre cause, tiens-la pour fausse, et attribue-le à ce que tu as dit de lui. Déjà, il s'inclinait pour baiser les pieds de mon maître, mais celui-ci lui dit « Non, frère, ombre tu es, et tu vois une ombre. » Et lui, se relevant, « Tu peux juger de l'ardeur de mon amour pour toi, lorsque, oubliant que nous ne sommes que des formes vaines, je traite les ombres comme des corps réels. » Chant 22e. Déjà derrière nous, l'ange était resté, l'ange qui nous avait acheminé vers le sixième cercle, après avoir effacé de mon front une empreinte, et avec ceux qui à désir ont la justice, il nous avait dit « Beati » et le reste des paroles avec « Sitisiunt » sans ajouter rien autre chose. Et moi, plus léger qu'aux autres entrées, si facilement j'allais que sans aucun travail, je suivais en haut les rapides esprits, quand Virgile commença, un amour qu'enflamme la vertu, enflamme toujours un autre amour pourvu qu'au dehors la flamme paraisse. Ainsi, du moment où parmi nous dans les limbes de l'enfer descendit Juvénal, qui me révéla ton affection, la mienne fut la plus vive qu'on puisse ressentir pour une personne qu'on ne vit jamais. De sorte que courts maintenant me paraîtront ces escaliers. Mais dis-moi, et comme ami, pardonne si par excès de confiance trop je lâche le frein, et comme ami désormais discours avec moi. Comment put l'avarice trouver place en ton sein, soigneusement rempli, comme tu l'étais de toute sagesse ? Ces paroles provoquèrent d'abord en Stas un léger rire, puis il répondit « Chacun de tes dires m'est une chère marque d'amour. » Véritablement, quelquefois apparaissent des choses qui donnent un faux sujet d'étonnement parce que les choses en sont cachées. Ta demande me montre que tu crois peut-être à cause du cercle où j'étais que je fus avare en l'autre vie. Or, sache que trop fus-je éloigné de l'avarice et cet excès a été puni des milliers de lunaisons. Et n'était que je redressais mon penchant lorsque j'entendis comme en ton courroux tu gourmandes la nature humaine, à quoi ne conduis-tu point, exécrable fin de l'or, la convoitise des mortels ? Roulant mon fardeau, je sentirais les joutes douloureuses. Alors je m'aperçus que trop pouvait s'ouvrir les mains pour dépenser, et je me repentis de ce mal comme des autres. Combien ressusciteront la tête rase à cause de l'ignorance qui de ce péché empêche de se repentir vivant et jusqu'au dernier terme ? Et sache que la faute directement opposée à une autre sèche avec elle ici sa verdeur. Si donc, pour me purifier, j'ai été parmi ceux qui pleurent l'avarice, par son contraire, ce m'est advenu. Quand tu chantas les armes cruelles, cause de la double tristesse de Jocaste, dit le chantre des bucoliques, par ces chants m'accompagne Clio, il ne paraît pas que fidèle, tu fais encore la foi, sans laquelle point ne suffit de bien faire. S'il est ainsi, quel soleil ou quel flambeau dissipe tellement les ténèbres qu'après tu dirigeas tes voiles à la suite du pêcheur. Et lui dit, Toi le premier, tu me conduisis au Parnasse pour me désaltérer dans ces grottes. Toi le premier, après Dieu, tu m'éclairas. Tu as fait comme celui qui va de nuit, projetant derrière soi la lumière, et à lui elle ne sert, mais il instruit ceux qui le suivent. Quand tu as dit « le siècle se renouvelle, la justice revient et le premier âge de l'homme, du ciel descend une race nouvelle, par toi je fus poète, par toi chrétien. » Mais pour que mieux tu discernes ce que je dessine, ma main y apposera les couleurs. Déjà tout le monde était plein de la vraie croyance, semée par les messagers du royaume éternel, et ta parole, que je viens de rappeler, s'accordait avec celle des nouveaux prédicateurs, d'où je pris l'habitude de les visiter. Ensuite, ils me parurent si saints que quand Domitien les persécuta, à leurs pleurs je mêlais mes larmes. Et tant que je fus de là, je les secourus, et leurs mœurs pures me firent mépriser toutes les autres sectes. Et avant qu'en mes vers je conduisisse les Grecs au fleuve de Thèbes, je reçus le baptême. Mais par peur je me cachais d'être chrétien et restais longtemps païen en apparence. Cette tiédeur m'a, plus de 400 ans, retenu dans le quatrième cercle. Toi donc qui as levé le voile qui me cachait le grand bien dont je parle, tandis que nous avons encore à monter beaucoup, dis-moi où est notre cher Terence, Cécilius, Plaute et Varron, si tu le sais. Dis-moi s'ils sont condamnés et à quelle demeure. Cela, et Perse, et moi, et beaucoup d'autres, répondit mon guide, nous sommes, avec ce grec que les muses allaitèrent plus abondamment qu'aucun autre, dans le premier cercle de l'obscure prison. Bien souvent, nous parlons du mont que ne quittent point celles qui nous ont nourris. Avec nous sont Euripide, Antiphon, Simonide, Agathon et plusieurs autres grecs qui saignirent leur front de laurier. Là, de ceux que tu as chantés, se voient Antigone, Déiphile et Argia et Ismène, toujours aussi triste. On y voit celle qui montra Langia. Là est la fille de Tirésias et Tétis et Déidamie avec ses sœurs. Déjà, les deux poètes se taisaient. De nouveau attentifs à regarder autour, hors désormais de la montée et des parois. Et déjà quatre des servantes du jour étaient demeurées en arrière, et la cinquième était au timon, le dirigeant en haut vers la zone ardente quand mon guide. Je crois qu'en suivant le contour du mont, nous devons tourner notre droite vers le bord extérieur, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Ainsi, l'accoutumance fut là notre enseignement, et nous prîmes ce chemin avec plus d'assurance par l'assentiment de cette digne âme, et ils allaient devant et moi seul derrière, écoutant leurs discours qui me donnaient l'intelligence de la poésie. Mais tôt rompit le doux discourir un arbre qu'au milieu du sentier nous trouvâmes chargé de pommes à l'odorat suaves et bonnes. Et comme le sapin de rameau en rameau se rétrécit en s'élevant, ainsi cet arbre en descendant, afin je crois que dessus nul ne monte. Du côté où le chemin était fermé, tombait du roc élevé une eau claire qui se répandait d'en haut sur les feuilles. Les deux poètes s'approchèrent de l'arbre et d'au-dedans, à travers le feuillage, une voix cria « De ce fruit vous aurez disette ». Puis elle dit « Plus pensait Marie à ce que les noces furent honorables et complètes qu'à sa bouche qui maintenant pour vous répond. » Et les antiques Romains se contentèrent d'eau pour boisson, et Daniel méprisa le manger et acquit le savoir. Le premier âge fut beau comme l'or, il rendit par la faim les glands savoureux et par la soif fit de chaque ruisseau du nectar. Du miel et des sauterelles furent la nourriture de Baptiste dans le désert. Pour cela glorieux est-il et aussi grand que le déclare l'Évangile.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
Radio. La parole aux associations.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Claire Legrand. Alors Claire, bonjour, vous êtes chargée de mission des couloirs humanitaires à Sant'Egidio et un programme a été mis en place en France depuis 2017. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail comment il est né ?
Tout est né suite aux nombreux naufrages en mer Méditerranée. Dès début 2015, Sant'Egidio s'est exprimé à plusieurs reprises, en France comme à l'échelle européenne, pour dire combien il était inacceptable de voir tant de personnes mourir d'espérance. Les propositions concrètes détaillées dans ces communiqués, et nous nous en réjouissons, ne sont pas restées des appels théoriques, mais sont devenues un véritable protocole qui a pris le nom de couloir humanitaire. Donc en France, ce protocole a été signé une première fois le 14 mars 2017 à l'Élysée, entre Sant'Egidio et le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, la Fédération protestante de France, la Fédération de l'entraide protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours catholique Caritas France. Et donc il a été renouvelé le 12 avril 2021 entre Sant'Egidio, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et les Semaines sociales de France.
Et alors que prévoit exactement ce protocole ?
Alors ce protocole prévoit l'accueil et l'intégration en France de 800 personnes au total, dites vulnérables, syriennes ou irakiennes, en provenance du Liban, par des collectifs citoyens. À leur arrivée à l'aéroport, les familles sont accueillies par les collectifs et les bénévoles de Sant'Egidio, et notamment les nombreux jeunes pour la paix de Sant'Egidio, avec toute la chaleur et la fraternité due à des personnes en exil et traumatisées par la guerre. Des applaudissements, des fleurs, des discours sont prévus à chaque arrivée. Le soir même, ensuite, les familles se rendent dans leur département d'accueil avec les bénévoles qui les accueillent et commencent un parcours d'intégration. Donc, pour les mineurs, c'est l'inscription immédiate à l'école. Pour les adultes, l'apprentissage de la langue française, bien sûr. Et une fois le statut de réfugié obtenu, l'intégration progressive dans le monde du travail. Donc au total, ce sont 45 départements en France et plus de 3000 bénévoles qui sont aujourd'hui investis dans l'accueil avec les couloirs humanitaires.
Et alors quel bilan tirez-vous après 8 ans d'existence ?
Cette initiative de la société civile, entièrement autofinancée, on précise, et les histoires de ceux qui sont arrivés nous montrent vraiment qu'il est possible non seulement de sauver ceux qui risquent de tomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains, mais aussi de mettre en place des parcours d'intégration réussis. À l'heure où sauver des vies humaines semble toujours plus urgent, le modèle lancé par Sant'Egidio a vu grandir la solidarité grâce à la générosité de nombreux Français et à leur engagement volontaire et gratuit. Et avec le temps, les couloirs humanitaires sont devenus une bonne pratique qui est reconnue internationalement, et on en est très fiers, et un modèle reproductible pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui est très important. Ces couloirs existent d'ailleurs en Italie et en Belgique. Dans une période marquée par la multiplication des guerres, elles sont véritablement une réponse concrète pour des personnes et des familles vulnérables qui ont le droit d'être protégées et à qui il faut offrir la vie et l'espoir en l'avenir. Nous sommes d'ailleurs prêts pour renouveler le protocole pour la troisième fois.
Eh bien, merci Claire pour ce partage et pour en savoir plus ou devenir collectif d'accueil, vous pouvez vous rendre sur le site internet couloirhumanitaire.fr. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.
Je te suivrai. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
À la une cette semaine, Stéphane Lutz-Sorgue, rédacteur en chef de Réforme.
Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, une parole protestante sur Gaza. Depuis un an et demi, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est tragique, on le voit tous les jours aux actualités, mais les églises protestantes étaient restées assez silencieuses sur le sujet, sauf sur place, bien sûr, au Proche-Orient. Mais plus maintenant, le 3 juin, l'Église protestante unie de France et l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, les deux grandes églises luthéro-réformées en France, ont publié un communiqué conjoint commun pour condamner, avec des mots très forts, pour condamner tout à la fois les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre et aussi la destruction de Gaza qui fait de ce lieu un enfer et empêche tout avenir. Alors, dans notre dossier de une, nous avons enquêté sur les raisons pour lesquelles les protestants ont mis relativement longtemps à prendre position sur ce sujet sensible et clivant et comment s'est construite dans le dialogue cette position commune. À lire aussi cette semaine la théologienne Marion Muller-Collard et ses mots très justes sur les affaires d'abus sexuels, notamment l'affaire Ansaldi, ce professeur de théologie aujourd'hui décédé et accusé de viol, à propos duquel l'Église et la faculté de théologie ont reconnu récemment leur inaction et leur faute. Voilà, ces articles et toutes les rubriques habituelles sont dans Réforme cette semaine. Réforme sur abonnement et sur réforme.net. Bonne semaine.
Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef du Pèlerin.
Bonjour à tous. À la une du Pèlerin cette semaine, nous avons choisi de mettre en valeur les mouvements d'église investis dans la mise en œuvre d'une écologie chrétienne à l'image du label Église verte ou du mouvement Laudato Si. L'encyclique Laudato Si fêtera, vous le savez, les 10 ans de sa publication, mercredi prochain, 18 juin. Une occasion pour notre hebdomadaire de prendre la mesure de ce qui change ou pas dans les paroisses, les monastères, les centres spirituels ou encore ces tiers-lieux d'inspiration chrétienne qui attirent un public diversifié avec, pour point commun chez ces différents publics, un puissant désir de cohérence de vie. Mais notre enquête s'est aussi intéressée aux évolutions en cours dans des structures plus ancienne à l'image du Secours catholique, une organisation qui a appris à articuler les deux dimensions à la fois sociale et environnementale de l'écologie dite intégrale, chère au pape François. Mais alors qu'en Europe, comme aux États-Unis, la transition écologique est à la peine, notre numéro s'attache également à illustrer la complexité des arbitrages en matière d'environnement à travers deux exemples très concrets en région, l'implantation de centres de données ou data centers particulièrement énergivore sur le port de Marseille, ou encore en Franche-Comté, le casse-tête d'une pollution croissante des rivières dans les zones où les éleveurs laitiers produisent le fameux Comté, production pourtant très encadrée. De quoi nourrir sa réflexion sur ces questions qui engagent notre avenir commun. Bonne lecture à chacun.
Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne.
Cette semaine, Famille Chrétienne s'interroge. 10 ans après la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François, peut-on encore sauver l'écologie? Car depuis plus de 50 ans, les constats, les alertes se multiplient sur la crise écologique actuelle, mais sans que la prise de conscience ne semble déboucher sur des changements réels. Alors, pourtant, nous voyons cette semaine dans Famille Chrétienne, à travers plusieurs reportages, comment la lecture de Laudato Si ou la fréquentation de groupes qui s'en inspirent a changé la vie de certains catholiques. Ce dimanche, c'est la fête des pères. 5 pères de famille se confient sur la relation qu'ils ont tissée avec leur fils lors de moments privilégiés, partagés, des moments forts pour un lien précieux. Décédé il y a bientôt 100 ans, l'Italien Pier Giorgio Frassati sera canonisé le 3 août prochain à Rome lors du Jubilé des Jeunes. Le frère dominicain Charles Desjobert, auteur d'une biographie sur le futur saint, nous le rend beaucoup plus familier, loin de l'image d'Épinal. Voilà, tout cela et plus encore est à lire dans Famille Chrétienne. Vous nous retrouvez aussi, bien sûr, sur famillechrétienne.fr.
Véronique Jacquier, rédactrice en chef de France Catholique.
Bonjour, dans France Catholique cette semaine, l'appel de Léon XIV pour rechristianiser la France. Le pape prend trois exemples à suivre pour susciter un nouvel élan missionnaire. Saint Jean Eudes, Saint Jean Marie Vianney, alias le curé d'Ars, et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Grand entretien avec Monseigneur Jacques Habert, qui est l'évêque de Bayeux-Lisieux, qui évoque les deux Normands, Saint Jean Eudes et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en parlant de maître spirituel qu'il faut se réapproprier. Et puis dans France Catholique, un article d'un moine du Barou qui revient sur le manque de vocation de prêtre en France, son analyse sur les deux siècles qui viennent de s'écouler. L'hebdomadaire vous propose aussi un dossier passionnant sur les impressionnantes figures de prêtres qui ont témoigné de la grandeur du sacerdoce dans les camps de concentration, le tout à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps. Beaucoup de ces prêtres sont désormais des bienheureux. Et puis comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, halte à Carcassonne pour prier l'enfant du pays. Il s'agit de Saint Jean-François à Régis, c'est le patron des jésuites de France, celui que l'on surnomme le marcheur de Dieu. En fait, c'est consacré à l'évangélisation des campagnes, notamment dans les Cévennes au XVIIe siècle. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.
Laurence Desjoyeaux, rédactrice en chef de La Vie.
Bonjour à tous. Cette semaine, dans La Vie, c'est un rocker qui fait la couverture du magazine. L'anglais Pete Doherty, le chanteur des Libertines, désormais installé en Normandie, à Étretat, vient de sortir un nouvel album. Alors sur l'un des titres, qui est intitulé « Prêtre de la mer », on peut entendre le curé de la paroisse, Didier Rocchini, prononcer une bénédiction à la mer. Alors à La Vie, ça nous a intrigués et on a cherché à en savoir plus. Nous avons réuni le rocker et le prêtre sur les hauteurs d'Étretat. Pete Doherty nous parle de sa foi, une foi qu'il a héritée de sa mère et qu'il a gardée durant toutes les épreuves qu'il a traversées, notamment l'addiction et la prison. Il nous parle de sa rencontre avec le curé de la paroisse, donc Didier Rocchini, et de ce lien qui les unit. L'entretien croisé est très vivant, très fort et très profond. C'est à retrouver cette semaine dans La Vie. Vous le savez, cette semaine, le vendredi est un vendredi 13. Alors pour beaucoup de nos contemporains, ces signes, porte-malheur ou porte-bonheur, sont importants. Qu'est-ce que cela signifie dans notre société sécularisée ? Quelle est la limite entre ces croyances, cette superstition et la foi ? C'est le dossier que nous vous proposons cette semaine dans La Vie. C'est à retrouver en kiosque, sur notre application mobile et sur notre site internet. Bonne semaine à tous !
Jamais imaginé qu'un Dieu pourrait s'abaisser jusqu'à prendre notre chair afin de faire de nous des frères. D'âge en âge, on publiera tes bienfaits. Prosterné devant ce mystère, j'acclamerai. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est apparue. La mort n'est plus et les ténèbres sont. Désormais plus de peur, plus de cris. L'homme déchu est relevé par Jésus. Crie, Jésus, crie. Personne n'a jamais imaginé qu'un Dieu pourrait nous donner sa chair sous la forme du pain afin que nous tous soyons un. D'âge en âge, on publiera tes bienfaits. Prosterné devant ce mystère, j'acclamerai. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est...